Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos. Christophe Jubien pour vous accueillir. Libre Propos, eh bien vous en avez l'habitude maintenant, c'est l'émission hebdomadaire de Radio Grand-Ciel qui nous permet d'entendre la parole de notre évêque, Mgr Philippe Christoris, sur des sujets divers et variés. Bonjour Mgr.
Bonjour Christophe, bonjour aussi à Simon, à la régie.
Un rapport du Haut Conseil à l'égalité s'inquiète des, je cite, « réflexes masculinistes chez les jeunes hommes de 25 à 34 ans ». L'enquête du HCE abordait des questions autour de la sexualité et des violences conjugales. Voici quelques chiffres. Selon le barème, 20% des 25-34 ans considèrent que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis. 32% d'entre eux considèrent que le barbecue est une affaire d'hommes. C'est 10 points de plus que la moyenne des hommes. Et surtout 23%, et là c'est peut-être bien plus embêtant, 23% estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Que vous inspire ?
Beaucoup de questions. Ouais. À la fois il y a du grave dans ces sujets et du drôle. Moi le barbecue, je laisse à qui veut le prendre. Et je pense que les femmes qui se parfument volontiers un peu doivent être bien heureuses que leur conjoint s'occupe de ces merguez fumantes et graisseuses du barbecue. Et voilà, donc barbecue, ça ne me paraît pas le critère le plus essentiel de la différence entre les hommes et les femmes. Moi, je pense qu'il faut surtout qu'on ait un respect mutuel les uns des autres, hommes, femmes, ensemble, de leurs qualités respectives. Peut-être que cette culture actuelle, avec le genre, qui crée un flou sur l'identité même des personnes, dès l'enfance, puisqu'on veut inculquer ce genre dès les classes primaires aux enfants, pour leur dire qu'ils peuvent être ou garçons ou filles, selon leur choix, indifféremment de leur réalité biologique, forcément, on finit par avoir des gens qui sont un peu perdus. Et il faut retrouver cet équilibre juste, mais dans une différence. Nous sommes d'abord sexués, quoi qu'on le dise, nous ne sommes pas pareils. Ensuite, ça n'empêche pas que l'égalité doit être totalement recherchée, notamment dans le travail, par exemple, égalité de fonction, de salaire, au cours d'une même carrière, on pourrait dire, d'un même parcours. Il est vrai que les femmes qui souvent peuvent s'arrêter de travailler quelque temps pour s'occuper et bien leur en prendre de leurs enfants, peut-être perdent quelques points dans l'évolution de carrière et qu'il faudrait pouvoir en tenir compte. Après, ce que cite ce constat gouvernemental, je crois, c'est ça, ou en tout cas qu'on appelle ces courants masculinistes. Alors j'étais voir un peu, moi je ne connaissais pas très bien ce
moi
terme.
Moi non plus, je viens de le découvrir.
Et j'ai un site d'information un peu neutre que j'apprécie qui s'appelle theconversation.fr. J'étais voir un peu et j'ai trouvé un article assez bien construit, absolument sidérant. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il y a des communautés d'hommes qui se retrouvent sur Internet et qui sont en pleine croissance. Des hommes frustrés de ne pas vivre de vie sexuelle avec des femmes, de ne pas être des négligés, d'avoir raté le train, entre guillemets, de l'affection et de la sexualité, et qui se nomment les incels. Ça vient de involuntary celibate, donc les célibataires involontaires. Et alors, ils demanderaient, par exemple, certains que l'État impose une amie-fille à tout homme pour qu'il puisse, entre guillemets, assouvir ses pulsions. Mais aussi cette frustration a généré des violences graves, puisqu'ils prônent la violence contre les femmes ou contre les hommes qu'ils appellent les tchads. C'est ceux qui sont physiquement assez solides et qui attirent, selon eux, les femmes comme le lion attire la lionne, quoi. Et il y a eu des attentats très graves, notamment aux États-Unis, avec des morts, des fusillades. L'idée, c'est de tuer du monde, tuer des femmes, tuer des gens. Et ils prônent beaucoup le suicide aussi. Donc c'est une idéologie de mort totalement décalée, totalement barbare, on peut dire, mais qui est la conséquence d'une énorme frustration. Et c'est vrai que quand on regarde peut-être les séries, les médias, les films faciles, on voit que ça couche autant que ça peut dès qu'on se rencontre. Et des tas d'hommes doivent être chez eux totalement seuls et avec un sentiment, notamment peut-être, comme vous disiez, vers 25-30 ans, d'avoir étaient négligées, aucune fille les a remarquées. Et donc, dans cette frustration, il se referme ou il passe à ses modes de vie collectifs par Internet qui les poussent à la violence. Et c'est un drame absolu, quoi.
Une société super érotisée, d'une certaine manière, ne peut qu'engendrer effectivement des frustrations pour ceux qui n'en bénéficient pas. C'est ce que Houellebecq, toute l'œuvre de Houellebecq parle.
On a tellement dit qu'il fallait absolument une vie sexuelle pour être épanoui. Ce qui veut dire que moi, évêque, je ne serais pas épanoui, bien sûr. Je n'ai pas de vie sexuelle avec une femme. Mais on peut penser aussi à des personnes qui ont un handicap, des personnes qui sont maintenant seules parce que le conjoint est décédé. Il y a des gens qui n'ont pas de vie sexuelle et qui pourtant se retrouvent avec des amis, avec des... Voilà. Et il faut reparler de ça de manière un peu éclairée et un peu sensée. Mais cette réalité-là est assez grave.
Ouais. Georges Baudin est décédé le 17 janvier dernier à Chartres à l'âge de 90 ans. Cette figure du diocèse était diacre depuis 1992 et il a occupé au sein de ce même diocèse de Chartres des fonctions importantes. Voilà qui justifie que nous lui rendions hommage aujourd'hui. C'est vraiment une figure du diocèse.
Oui, Georges a été diacre une quarantaine d'années. Il a été d'abord à Paris, puisque le père Frédéric Roder, qui est curé à Épernon, a œuvré avec lui pendant 7 années. Il est venu ensuite en Eure-et-Loire, notamment je pense avec la retraite de son travail. Il s'est beaucoup donné, c'est un homme d'organisation, un homme de vision. Il a été économe du diocèse, en ce sens il a rendu un grand service au diocèse. Et puis il était sur Chartres, habitant près du centre, avec son épouse Bernadette. Et je me souviens encore de quelques célébrations qu'il a fait à mes côtés comme diacre. Ces derniers temps, il était plus fatigué. Il a eu malheureusement aussi... en plus, le Covid, très récemment, et il est donc décédé il y a quelques jours. Et ses funérailles sont cette semaine-ci, mardi 24 janvier. On lui rendra un bel hommage, et c'est le diacre Didier Gougis qui donnera l'homélie. J'ai pensé que c'était bien qu'un diacre parle au nom un peu de ce service de diaconat qui a été celui de Georges pendant beaucoup d'années.
Alors j'ai beaucoup vu Georges Baudin il y a 10-15 ans, peut-être un peu plus même. Je me demandais si de tels gens qui passent autant de temps auprès du diocèse, qui sont aussi coopératifs et généreux, existent toujours. Est-ce qu'il y a toujours comme ça des gens pour donner partie de leur temps à...
Bon, forcément, le diaconat met plus en valeur la personne qui sert, puisqu'on le voit notamment à l'hôtel, mais il ne fait pas que cela, il va aussi... porter la communion, il peut enseigner la parole dans différents cercles, il accompagne des fiancés, il accompagne des familles endeuillées, donc il y a beaucoup de choses que le diacre peut faire un peu dans la discrétion, mais il est quand même un peu plus en vue qu'un laïc, c'est-à-dire qu'un simple laïc, donc un laïc, parce que personne n'est, enfin, tout le monde est simple et personne n'est simple, quoi. Mais un laïc qui et on en voit dans les paroisses, qui vont faire des services depuis 40 ans, 50 ans, ce qui est important, c'est qu'on change de service, qu'on n'ait pas forcément toujours la main sur un service, il faut laisser la place à d'autres. Mais dans une paroisse, il y a beaucoup à faire.
Ouais. Pour finir, un petit retour sur votre dernier message fraternel, que tous soient un père comme toi et moi sommes un. Vous y évoquez la météo saisonnière, le froid est parmi nous, d'autant plus sensible que les Français apprennent à moins se chauffer, compte tenu des prix du gaz et de l'électricité. Mais dites-vous, n'est-il pas intéressant de regarder ce temps hivernal comme celui où, en profondeur, la terre travaille et se prépare pour une nouvelle floraison. Il s'agit là, bien évidemment, d'une métaphore, mais une métaphore de quoi ?
De la vie spirituelle elle-même, parce qu'on ne voit pas toujours ce qui se passe. La terre elle-même, pour moi qui ne suis pas un terrien, quand je la vois l'hiver, comme ce fut le cas le week-end qui vient de se passer à Brou et autour de Brou, moi, une terre, c'est de la terre, donc je ne sais pas très bien ce qui se passe en dessous, mais un bon cultivateur doit connaître tout le travail qui se fait, qui se prépare pour que, vers le mois de mars, jaillissent les pousses et les plantes. Mais spirituellement, c'est pareil. On a aussi des moments de jachère, des moments... où la vie ecclésiale paraît plus calme, paraît plus continue peut-être, mais l'Esprit-Saint travaille les cœurs et peut émerger alors, notamment par la prière commune, par la, le travail, la collaboration entre les fidèles, des idées nouvelles, des fleurs nouvelles, des pousses nouvelles qui auront d'autres fruits. Ce qui importe, c'est le sens du synode qu'on a vécu déjà, mais qui continue, ce synode ouvert à tous, pour qu'à l'écoute de l'Esprit-Saint, on laisse jaillir des idées nouvelles. Il ne faut pas désespérer d'une situation qui paraît un peu trop calme. Il faut se mettre à l'écoute de Dieu, en prière, et réfléchir, en lisant la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire. Aussi, en ayant la curiosité d'aller voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres diocèses, d'aller voir sur les sites internet des diocèses, qu'est-ce qu'ils font, eux, dans telle situation, pour les jeunes, pour les anciens, pour la pastorale liturgique, peut-être, etc. Cette curiosité est un bon, je pense, média pour aller trouver des nouveautés.
Oui. Alors, vous demandez aux catholiques de porter la lumière, notamment en œuvrant pour la communion entre les chrétiens. Nous sommes en plein cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est encore là une chose qui vous tient à cœur.
Ce soir 24, j'irai prier à la Madeleine avec d'autres chrétiens protestants orthodoxes pour nous mettre devant le Seigneur. Je pense qu'on a hérité, nous, de notre tradition catholique, parce que c'est notre naissance qui nous a mis parmi les catholiques. En général, c'est un peu marquant. Mais l'Esprit-Saint ne s'est pas arrêté d'accompagner les baptisés, quels qu'ils soient. D'ailleurs, nous parlons d'un même baptême. Le Saint-Paul est très clair. Un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu. Et donc, on doit accueillir aussi, dans l'écoute, la richesse des autres. Et voir comment on peut être inspiré. Par exemple, les frères orthodoxes ont beaucoup développé la liturgie. Nos frères protestants sont beaucoup attachés à la parole de Dieu. Nous, on a cette vie, je trouve, assez équilibrée entre les sacrements, la prière, la méditation de la parole de Dieu, et puis les œuvres aussi nombreuses qu'on porte. Mais on peut toujours s'enrichir, et le Christ désire cette unité entre nous.
Oui. Vous dites que l'œcuménisme a perdu un peu de sa force en France.
Je pense qu'il y a eu un grand enthousiasme avec le Concile. On sentait bien que l'œcuménisme qui avait été lancé au début du XXe siècle, notamment par les églises protestantes, a été ensuite repris par les catholiques. Le Concile a suscité beaucoup d'espérance parmi les catholiques. Ceux qui ont porté ça à l'époque ont maintenant quand même vieilli. Et la génération nouvelle me semble certes très priante, désirant être en mission et se former par l'étude. La dimension œcuménique n'est pas toujours au rendez-vous, ou en tout cas pas toujours une priorité, alors qu'elle est incontournable. Nous devons à la fois approfondir ce que nous sommes, notre tradition, notre héritage, l'enrichir par la nouveauté de l'esprit, mais aussi chercher cette unité qui est le critère aussi du témoignage. Ouais. Pas d'unité, pas de témoignage authentique du Christ. Ouais. Donc si on veut témoigner auprès des non-chrétiens de la beauté, du trésor de la foi chrétienne, nous devons en même temps être attentifs à nos frères et sœurs chrétiens d'autres confessions.
Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à Simon Martin en régie technique. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur www.radiorentiel.fr. À la semaine prochaine.
Musique tu lisses, musique tu chasses, tous les contretemps de nos vies saccadées. Musique tu vas, musique tu viens, pour trouver l'accord qui deviendra le bon. Musique sans voix, musique et refrain, cherche les bons mots pour faire une chanson.
Musique tu portes, musique tu sonnes, au-delà des mers, sans bémol à la clé. Musique bien forte, musique résonne, avec des accents de générosité. Musique d'ici.